VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonsoir à tous. 17h, temps universel. Mohamed Bouhari, nouveau président du Nigeria. Une victoire éclatante qui a suscité plusieurs réactions de par le monde entier, à commencer par celle du locataire de la Maison Blanche à Washington. Le vainqueur n'a pas été le seul à recevoir les félicitations. Michel Joseph.
Barack Obama a bien évidemment félicité le président élu, Mohamedou Bouhari, en saluant au passage le respect des principes démocratiques dont le pays a fait preuve durant le scrutin. Et puis, il a tiré son chapeau au président sortant, Goodluck Jonathan, qui, a-t-il dit, a placé les intérêts de son pays en premier, en reconnaissant sa défaite et en félicitant le président élu Bouhari pour sa victoire. Le président français François Hollande a fait de même tout en réitérant la volonté de la France de poursuivre des relations étroites avec le pays. Au nom de la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU a qualifié la victoire de Mohamedou Bouhari de preuve de la maturité de la démocratie au Nigeria. Il a ensuite souhaité que le même esprit démocratique prévale lors des élections des gouverneurs et parlements des États de la Fédération nigériane le 11 avril. Ban Ki-moon a appelé les Nigérians à accepter le résultat de vote et à saisir les tribunaux en cas de contestation. Autre réaction, l'Union européenne a dès hier soir remercié le président sortant pour sa contribution à la consolidation de la démocratie dans le pays, un pays qui a connu 6 coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960.
Et le nouveau président élu du Nigeria, Mohamedou Bouhari, a rappelé aujourd'hui, au lendemain de sa victoire, sa détermination à lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram qui ravage le nord-est du pays depuis 6 ans. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour ramener la paix, a déclaré le général retraité de 72 ans lors d'un discours prononcé à Abuja, la capitale. Et même vent d'optimisme contre la menace posée par Boko Haram, le président nigérien Mohamedou Issoufou, en visite aux États-Unis, estime que le groupe islamiste nigérien n'a pas d'avenir.
Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria contre Boko Haram. Il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. C'est le cas de la ville de Damasak, c'est le cas de la ville de Douchi, la ville de Gashgar. Et ce matin même, on vient de m'apprendre que la ville de Malamfatri a été libérée par la coalition nigéro-tchadienne. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout à l'intérieur du Nigeria. Au Niger, où ils ont essayé de nous attaquer le 6 février dernier, nous les avons repoussés à Bosso, à Diffa. Nos forces ont pris le dessus, nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis, Boko Haram n'a pas d'avenir. L'avenir de Boko Haram est derrière elle. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pouvons dire que nous verrons la fin de Boko Haram dans la région de Lac Tchad.
Le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, au micro de Nicolas Pino. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution exhortant la communauté internationale à soutenir davantage les pays africains dans leur lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Félix Yepasis Zembrou.
La résolution appelle la communauté internationale à fournir un plus grand soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Nigeria et à tout autre pays affecté par les actions du groupe terroriste Boko Haram. Le texte adopté lors d'une réunion extraordinaire du Conseil convoqué à la demande du groupe africain et d'autres pays, dont la France et la Russie, stipule que l'assistance portée aux pays affectés se fasse à leur demande et en collaboration étroite avec leurs gouvernements respectifs. La résolution demande notamment à la communauté internationale d'apporter une assistance technique à la force multinationale mixte de l'Union africaine chargée de combattre Boko Haram. Ce carnage qui constitue une claire menace doit s'arrêter, a affirmé le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Mais il a demandé aux pays africains de respecter les droits de l'homme, soulignant qu'il existe des informations crédibles accusant les forces de sécurité du Nigeria et d'autres pays de commettre de graves violations dans le cadre de la répression de Boko Haram.
Dans le sud Kivu, en RDC, il est 18h04.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
République démocratique du Congo, la coopération entre la MONUSCO et l'armée congolaise doit reprendre le plus vite possible afin de combattre efficacement les rebelles hutus rwandais actifs dans l'est du pays. C'est ce qu'estime Martin Kobler, le chef de la mission onusienne en RDC. Il dénonce les effets négatifs de la non-coopération entre les soldats congolais et les casques bleus. D'après lui, l'armée congolaise a certes récupéré des positions jadis tenues par les rebelles rwandais qui ont donc disparu de ces territoires. Mais ailleurs, les combattants se sont mêlés à la population locale. Rappelons que la RDC a renoncé à l'aide de l'ONU dans cette opération après des pressions l'invitant à remplacer deux généraux soupçonnés de graves violations des droits humains. Israël prévoit de forcer des migrants africains clandestins à choisir entre l'expulsion vers un pays tiers sécurisé en Afrique ou la prison. Selon le ministère de l'Intérieur cité par l'agence France-Presse, la mesure devrait être mise en place dans les jours à venir. Parmi les pays tiers, la presse et les associations évoquaient le Rwanda et l'Ouganda, deux pays que les six organisations jugent peu sûrs, des migrants y ayant déjà été dépossédés de leur argent et de leurs papiers à leur arrivée. Selon le ministère, cette mesure s'appliquera aux migrants qui se sont infiltrés en Israël, des Soudanais et des Érythréens notamment, qui ne peuvent être expulsés vers leur pays d'origine en raison de la guerre. La Palestine recherche la justice par la vengeance. C'est en ces termes que le chef de la diplomatie palestinienne s'est exprimé en recevant une copie symbolique du statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. La Palestine est officiellement membre de la CPI. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à huis clos au siège du tribunal de La Haye. Une adhésion qui est décrite par beaucoup d'analystes comme une arme diplomatique qui pourrait envenimer davantage des relations déjà très tendues avec Israël.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Yémen, la population civile prise dans l'étau entre les forces de la coalition de Riyad et rebelles houthis. De nouvelles victimes sont tombées ce matin. Au moins 37 civils ont été tués dans le bombardement d'une laiterie de l'ouest du pays. Un bilan qui confirme une fois de plus les inquiétudes d'organisations humanitaires sur le sort de la population. Selon l'UNICEF, au moins 62 enfants auraient été tués et 30 autres blessés dans des combats depuis une semaine. C'est la cacophonie à Lausanne, en Suisse. Toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien. Quelques heures après avoir été suspendu dans la confusion, les discussions ont repris ce mercredi 1er avril. La Russie et l'Iran ont évoqué des progrès et même un début d'accord alors que les États-Unis assuraient que toutes les questions n'avaient pas été réglées. Un survol de la situation avec vous, Jacques Aristide.
Les pourparlers marathon entre les grandes puissances et l'Iran auraient dû s'achever mardi à minuit avec l'expiration de la date butoir. Au lieu d'un accord préliminaire, ce sont des messages contradictoires qui fusait de toutes parts à ce mercredi. Si l'Iranien Mohammad Javad Zarif espérait la conclusion d'un accord aujourd'hui, le russe Sergei Lavrov, lui, faisait état d'un accord de principe déjà obtenu et qui allait être accouché sur le papier, je cite, « dans les prochaines heures ». Toutefois, des diplomates occidentaux estimaient qu'un accord de principe n'avait pas encore été conclu. Philip Hammond, secrétaire du Foreign Office britannique, a fait savoir que des points restaient à résoudre. Malgré l'incertitude, le secrétaire d'État américain John Kerry a entamé ce mercredi une rencontre avec son homologue Javad Zarif. Et depuis Jérusalem, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois mis en garde contre ce qu'il appelle un mauvais accord qui mettrait en danger Israël, le Moyen-Orient et la paix dans le monde.
Merci Jacques. Et puis cette nouvelle liste rendue publique par les centres de surveillance américains de groupes extrémistes Intel Center. Selon l'organisation, 21 mouvements djihadistes dans le monde sont jurés allégeance au chef du groupe État islamique, Abu Omar al-Baghdadi, et 10 lui ont apporté leur soutien. L'on apprend aussi qu'il y aurait 31 mouvements implantés dans le monde, dans un arc allant de l'Algérie à l'ouest, à l'Indonésie à l'est. Et la police turque a opéré aujourd'hui dans tout le pays un vaste coup de filet parmi les proches du groupe clandestin d'extrême gauche à l'origine de la prise d'otage qui s'est soldée la veille par la mort d'un magistrat et de deux militants qui le retenaient. En début de matinée, les forces de l'ordre ont interpellé à Antalya, dans le sud, 22 étudiants soupçonnés de lien avec le parti Front révolutionnaire de libération du peuple, DHKPC, qui a revendiqué la prise d'otage de mardi. Selon l'agence de presse d'Ogan, la police a lancé son raid après avoir reçu des renseignements laissant penser que le DHKPC préparait une opération similaire à celle menée au palais de justice d'Istanbul. Rendez-vous pour une autre information, pour d'autres informations, dans 20 minutes, ce sera dans Le Monde aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info.